CFM, le mag, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du MAG dans le Tarn-et-Garonne. Il s'y passe que mercredi 6 novembre, eh bien, il y a les assises de l'éducation à l'environnement et au développement durable en Occitanie. C'est du côté de Saint-Nicolas-de-la-Grave, j'en parlerai avec le CPIE Quercy-Garonne, organisateur. Le MAG, ce sera aussi à propos d'une exposition à Saint-Antonin-Noblevel, au Café de la Halle, à propos de la place des moines, point d'interrogation, pour recueillir les témoignages et impressions sur la proposition de la mairie sur l'aménagement de cette place. On poursuivra avec le feuilleton de la semaine où Rémi Torella nous parlera du festival Lettres d'automne qui commencera le 18 novembre. Mais le MAG, comme tous les lundis, c'est aussi la chronique toponymie avec Paul Burgan. C'est pour tout de suite.
Bonjour à tous. On doit peut-être rattacher le toponyme Las Calbes, situé dans la gâche du Moustier en 1670, à l'occitan calvo, issu du latin calvus, et désignant un terrain dénudé ou un crâne chauve. Les terriers de 1507 et 1519 situent le terme de Calfo Aurelio ou Escalfo Aurelio près de Verliaguet. Le sens de cette expression occitane est chauffe ou échauffe l'oreille. Ce lieu-dit, dont le nom est pittoresque, fait peut-être allusion à un propriétaire particulièrement agressif. Au faux, les registres de 1497 et de 1519 portent le lieu-dit la Calmo, terme occitan désignant une terre inculte. Ce même toponyme se retrouve dans la plaine à Pêche-Boyer. Dans la même famille, on trouve le terroir de Calmeil, du côté de Bonnefond. Ce terme, qui se réfère également à un terrain inculte, est devenu patronyme puisqu'on trouve plusieurs propriétaires ainsi nommés au XVIIIe siècle. Le lieu-dit Calmette, situé aujourd'hui dans la partie urbanisée au nord de la ville, est évidemment lui aussi un dérivé diminutif de calme avec le même sens. Près de Saint-Nopharie figure le lieu-dit La Calprède. Ce terme occitan est dérivé du Calpre, issu du latin carpinus, qui a le sens de charme. Il s'agit de l'arbre, bien sûr. Il s'agit donc ici d'un terrain couvert de charme. Le terme gaulois cambo désignait un méandre, une courbe de rivière. Il a pris en toponymie le sens de terre fertile située près d'une rivière. Nous avons trouvé un cambo à Saint-Martial et un autre à Pêche-Boyer. Dans ce même secteur de Pêche-Boyer, il y a également le dérivé Las Cambunos. À la semaine prochaine.
Et merci Paul Burgan. Toutes les chroniques toponymies sont à retrouver en podcast sur notre site cfmradio.fr. Le MAG se poursuit à propos des assises à l'éducation à l'environnement et au développement durable en Occitanie. Rien que ça.
La vie des pays, CFM.
Les assises de l'éducation à l'environnement et au développement durable en Occitanie, c'est au programme du mercredi 6 novembre, organisé donc par la région, supporté par le département et orchestré sur le département du Tarn-et-Garonne par le CPIE, le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement de Queilus, dont la directrice est avec nous. Bonjour Nathalie Grosborn.
Bonjour.
Et bonjour Gaëlle Mathura.
Bonjour Lisa.
Aussi salariée et en particulier responsable du rucher pédagogique du CPIE de Queilus. Alors déjà, toute première question, je l'ai vue notée sur un de vos bouts de papier, c'est quoi les assises ?
Donc les assises, c'est un regroupement des acteurs de l'éducation à l'environnement. Donc ces assises territoriales en Tarn-et-Garonne, en fait, s'insèrent dans un processus un peu plus large, étant donné que la région Midi-Pyrénées a décidé d'organiser, en partenariat avec le Grain Occitanie, des assises régionales de l'éducation à l'environnement. Donc ça a débuté au mois d'avril. On continue sur les territoires de l'Occitanie. 14 territoires sont concernés donc, par des assises territoriales ou départementales ou des fois un peu urbaines, selon les contextes territoriaux. Voilà, pour essayer donc, de faire émerger des besoins, voilà, des envies qu'en particulier les citoyens auraient pour favoriser la transition énergétique et écologique. Voilà.
Alors, les entreprises, les associations, les particuliers, n'importe qui peut en fait participer sur cette journée du mercredi 6 novembre. Ça se passe à la base de loisirs de Saint-Nicolas-de-la-Grave. Le programme de la journée, il y a plusieurs ateliers, des outils qui sont proposés pour mettre en place, enfin, surtout pour récolter des idées, en fait, pour favoriser cette transition énergétique.
La direction département, la DDCSPP, Jeunesse et Sport, voilà, pour toute la jeunesse, et aussi la jeunesse qui est concernée aussi par les activités sportives, dans lesquelles sont souvent intégrées des notions d'éducation à l'environnement. On a aussi le conseil départemental, voilà, avec qui on a organisé cette journée. Et voilà, dans nos partenaires privilégiés, on va dire.
Dans les principaux partenaires. Après, on en oublie sûrement. Il y a la ville de Saint-Nicolas-de-la-Grave aussi qui nous fait un appui technique.
Le CIRTOMAD.
Voilà, on ne va pas tous les citer aujourd'hui, mais ils sont nombreux.
Le programme pour cette journée, c'est, je le disais, plusieurs ateliers. On a un atelier autour de l'eau, de la biodiversité, du déchet et de la transition énergétique. Vous proposez donc à tout un chacun, là j'insiste lourdement, n'importe qui peut venir en fait, peut s'inscrire pour participer à cette journée, pour échanger avec tout le monde et pour proposer des idées en fonction de ces thématiques.
Oui, sur le plan des publics, on va dire que de nombreux publics sont concernés par ces questions d'environnement et d'éducation à l'environnement. Donc vous en avez cité certains, mais ce sont aussi les entreprises, les collectivités, bien sûr le milieu associatif, l'éducation nationale, un club sportif. Une entreprise qui aurait envie de mettre des actions, qui a déjà réalisé des actions, hein. Nous on en connaît pas mal, plus ça va, plus on est appelé par des entreprises, ou aussi des groupes de citoyens, voilà, qui viendraient voilà, pour présenter une action, ou alors pour s'enrichir d'idées ou d'outils, et connaître d'autres acteurs.
Et toutes ces idées vont être récoltées, compilées, ça va devenir quoi ?
Alors, ça va devenir, j'espère, non pas qu'une liste qui ne servira à rien, mais bien des outils qui sont destinés à remonter vers la région, pour après redescendre vers tous ces acteurs-là, pour leur faciliter la vie, leur faciliter la mise en œuvre de projets locaux. Puisqu'en fait, l'idée de tout ça, c'est de réfléchir ensemble à ce qu'on arrive à faire, à ce qu'on a du mal à faire aussi, comment on peut débloquer certaines situations. Et puis voilà, donc on fait remonter sur la région et ensuite on retransmettra à tous les participants et à tous les publics intéressés par ce genre d'action.
Les ateliers dont je parlais initialement, donc autour de l'eau, de la biodiversité, des déchets ou de la transition énergétique, ça se passe le matin. Et l'après-midi, vous proposez là des outils pour concrétiser un petit peu, pour échanger, pour avoir un appui peut-être pédagogique.
Voilà, c'est ça. Donc l'après-midi, on est en assemblée plénière tous ensemble. Et là, on va... Alors, c'est pas nous, c'est PIE hein, qui allons... présentés, ce sont vraiment cette fois-ci nos partenaires.
Contrairement au matin.
Contrairement au matin.
Ateliers.
Donc là, on va avoir par exemple l'Éducation nationale qui va présenter les dispositifs dont on peut se servir lorsqu'on veut monter des projets d'éducation à l'environnement au sein de l'Éducation nationale, dans des classes, écoles, collèges, puisqu'il faut suivre un peu l'organisation de chaque structure, on va dire. On a aussi une personne de la région chargée de l'éducation à l'environnement qui va nous présenter un des dispositifs que la région met à disposition des citoyens. Voilà.
Qui est Ma Solution pour le Climat, un nouveau dispositif que vient de lancer la région qui s'adresse plus particulièrement aux groupes de citoyens constitués sur des territoires qui ont envie de faire un projet et qui ne savent pas trop comment faire, ben, ce dispositif-là permet d'avoir quelques financements pour les réaliser.
Et pour compléter, l'après-midi, on aura aussi Jeunesse et Sport, qui va nous montrer les dispositifs applicables sur les temps de loisirs et dans le sport, ainsi que nous présenter, je pense... les contrats,
les services civiques, en particulier, voilà, qui peuvent être utilisés par des associations, qui peuvent servir à des jeunes, bien sûr, pour, on va dire, démarrer vers l'emploi, et aussi qui, bien sûr, sont intéressants pour le milieu associatif.
Voilà, et puis on aura aussi une association locale qui commence à être bien connue, c'est les Colibris 82. Et là, c'est pour parler un peu de l'engagement associatif et... Toujours pareil, comment on arrive à monter des actions et puis qu'est-ce qui freine ces actions ?
Alors là, je reviens sur vous, là, le CPE, vous en connaissez un rayon dans le domaine, étant vous-même Donc, initialement, une association, Al País de Bonetta, qui a été labellisée CPIE. J'en profite pour vous demander de nous rappeler qu'est-ce que c'est qu'un CPIE.
Alors, CPIE, donc Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement, donc au départ, ça démarre d'une initiative locale, d'une association qui réalise des actions dans le domaine de l'environnement, alors sur toutes les thématiques, hein, eau, déchets, énergie, biodiversité, paysage, et qui réalise aussi des actions non seulement à un petit niveau territorial, mais souvent au niveau départemental. Voilà. En Occitanie, nous sommes actuellement presque 13, hein, le 13e va bientôt être labellisé, et à peu près un par département.
Ce sera le 6 novembre, le mercredi 6 novembre, à la base de loisirs de Saint-Nicolas-de-la-Grave. Il faut réserver pour participer à cette journée, pour se faire un petit mail au CPIE.
Oui, un petit mail et on vous enverra le lien pour vous inscrire.
L'adresse mail, on peut la trouver en tapant au CPIE.
Oui, mdp82@wanadoo.fr.
MDP pour Maison du Patrimoine. mdp82@wanadoo.fr. Nathalie Grouborn et Gaëlle Mathura, je vais vous laisser le mot de la fin.
Eh bien, moi, je vous dis à très bientôt. Hein. On se revoit aux assises pour réfléchir tous ensemble à des solutions concrètes pour l'avenir et pour le climat. À bientôt.
Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. On vous attend nombreux. Et à bientôt.
Merci beaucoup. On poursuit ce mag juste après une page de pub à propos d'une exposition au Café de la Halle de Saint-Antonin-Nobleval à propos de la place des moines qui va être réhabilitée, un aménagement proposé par la mairie qui ne fait pas nécessairement l'unanimité auprès des citoyens. Et la suite du mag, ce sera le feuilleton de la semaine à propos du festival Lettres d'automne. Restez avec nous.
De l'avenue du Père Hugues au lac de la Barthe.
Vous écoutez CFM.
Vous écoutez CFM.
99.4.
Rugby Pro D2, jeudi 7 novembre à 20h45. L'US Montauban accueille le Biarritz Olympique. Un seul objectif, vaincre les Basques avec votre fervent soutien. Tous à Sapiac, jeudi 7 novembre. USM face au Biarritz Olympique. Infos et réservations sur usmsapiac.fr.
Gagnez vos places sur CFM Radio en appelant le 05 63 930 020 le soir dans l'émission À qui le tour.
CFM à Caylus et dans les gorges de l'Aveyron, 99.4 et 89.2. CFM, le mag, tous les jours,
17h, 17h30.
La vie du Tarn-et-Garonne.
Le mag du Tarn-et-Garonne, vous êtes bien sur CFM. Et dans cette partie d'émission, on va parler de la prochaine exposition qu'accueille le Café de la Halle de Saint-Antonin-Nobleval. L'exposition, c'est Place des Moines, point d'interrogation. Une exposition autour de cette Place des Moines. On va en parler aujourd'hui avec Caroline Bernard, bonjour.
Bonjour.
Et Silène de Baudouin, bonjour.
Bonjour. Pareil,
respectivement architecte et urbaniste. Alors, dans le contexte, vous avez réalisé des fresques au fusain de ce qu'aurait pu être, de ce que pourrait être la Place des Moines, puisqu'il y a eu une concertation là dernièrement, fin octobre, autour de la réhabilitation de cette place. Vous faites partie de la Société des Amis du Vieux-Saint-Antonin qui organisait cette réflexion en présence du maire de Saint-Antonin-Nobleval. Quelle est votre réaction ?
Tout d'abord, Caroline est membre des Amis du Vieux-Saint-Antonin. Moi, pas, je suis une simple habitante. Et une petite précision aussi, il ne s'agissait pas d'une réunion de concertation, mais une réunion d'information en réaction à un projet qui a suscité pas mal de questions, de débats, à laquelle monsieur le maire, monsieur Hagan, était invité pour défendre sa proposition. Voilà, donc ça n'était pas de la concertation.
Autant pour moi.
Alors, l'histoire a commencé pour nous cet été, puisqu'on a découvert le projet de la Place des Moines dans la Gazette municipale à la fin de l'été. Donc on y a vu des maquettes, il y a des photos qui représentent le projet, et ces vues contrastent beaucoup avec la place d'il y a 100 ans, que ce soit la promenade des moines photographiée par Amélie Gallu au 19e, ou les thermes de 1915. Donc on a été frappés, nous, les habitants, non seulement par les méthodes employées, mais aussi par le projet lui-même. Donc, les méthodes, premièrement, la manière dont le projet a été mené. une seule réunion publique, le 27 juin 2016, avec seulement une trentaine de personnes. Donc pas beaucoup d'informations, pas de respect des préconisations de Franck Boyer, architecte mandaté pour la réalisation du diagnostic, notamment par rapport à la zone d'étude, qui devait être beaucoup plus large, beaucoup plus étendue, et à la question des fouilles archéologiques essentielles sur la place des Moines. Également, l'appel au travail de concertation avec les habitants faisait partie des préconisations de Franck Boyer. Donc, deuxièmement, le résultat, en fait, froideur esthétique, perte d'identité de Saint-Antonin, on pourrait être n'importe où ou en périphérie urbaine, manque d'ombre, perte de l'intimité et de la sécurité à cause de la disparition de la limite entre la place et la route départementale. Il y a même l'intrusion d'un parking de 12 voitures juste à côté de l'entrée principale qui rogne sur la place, sans pourtant ajouter un nombre supplémentaire de places. Et puis, pour terminer, perte d'une fonction essentielle de la place, qui est le belvédère, son ancrage géographique.
Alors, ça, c'est le constat que vous avez mené, d'où la réalisation de cette exposition qui propose une réflexion, une alternative éventuelle à ce qui est prévu, du coup, pour la réhabilitation de cette place.
L'idée, ce n'est pas d'imposer notre vision en tant que Silène et Caroline, mais de faire une proposition et de montrer qu'autre chose est possible, et ensuite amener vers du débat public et qu'on construise cette place ensemble en fonction de ce qu'on a envie d'y voir, de ce qu'on a envie d'y vivre. Donc c'est juste un point de départ. Et par rapport à la manière dont l'expo est montée, c'est qu'elle est en fait en deux parties. Il y a une première partie qui est plus diagnostic, état des lieux, très, d'un point de vue d'un urbaniste en fait, où j'ai vraiment pris de la hauteur par rapport à la place des Moines, parce que la place des Moines, elle fait partie d'un tout, d'un village, elle est dans un village. Et donc c'était de réfléchir à toutes les circulations piétonnes à l'échelle du bourg, parce que finalement, l'aménagement d'une place telle que la place des Moines, la question se pose aussi de comment on s'y rend et comment on en part. Donc on ne pouvait pas se limiter juste à l'étude de la place des Moines. Donc là, on relève quatre thèmes qui sont reliés, cheminés, ombragés et flânés. Donc reliés, c'était relier les différents équipements de Saint-Antonin, notamment les commerces. Ombragé, c'était la question de la canicule en été et comment vivre et se déplacer au village dans les meilleures conditions possibles. Et flâner, là, c'est plus en rapport avec la place des Moines, c'est une proposition d'une balade, une véritable balade en fait, intramuros de Saint-Antonin jusqu'au moulin de Roumégousse. Et la deuxième partie de l'expo, là, on rentre vraiment dans la place. Et là, c'est Caroline qui a travaillé là-dessus avec des esquisses au des grands formats, des esquisses au fusain. Et je vais peut-être lui laisser la parole pour en parler.
Alors oui, il s'agit d'esquisses réalisées au fusain sur craft de 1 mètre par 60 cm et qui représentent en fait des vues imaginaires, mais en fin de compte assez simples, de ce que pourrait être la place des Moines et en tout cas ce qui pourrait s'y passer. Alors, ce n'est pas une vision personnelle. J'ai réalisé ces dessins à la suite de discussions avec les uns et les autres dans le village. Et en discutant et en dessinant, je me suis rendu compte en fait, que c'était finalement pratiquement la place des Moines telle qu'elle était, avec des humains qui sont assis sur des chaises et des bancs, avec de l'ombre, avec des balustres qui auraient été conservés par souci d'économie et parce qu'ils participent au patrimoine de la place. Enfin, quelque chose d'assez simple. Et donc, on a réagi sur cette simplicité.
Voilà. Une exposition donc pour recueillir les témoignages et les impressions sur la proposition de la mairie concernant la réhabilitation de cette place des Moines. Vous allez aussi, je crois, mener des ateliers.
À l'occasion du vernissage.
Demain.
Qui est demain ?
Demain, on leur dit, à 18h30, au café de la Halle, pour un mois.
on va proposer aux gens qui sont là, on va leur demander quel thème ils souhaiteraient aborder sur cette place et ses abords, pour qu'on puisse s'occuper de la mise en route et l'organisation des ateliers, des réunions de travail. Alors, on lancera quelques pistes. Évidemment, on a des idées, ça fait un mois et demi qu'on bosse dessus. Ce sera des propositions, mais nous, on attend les conseils, propositions de la part des habitants.
Alors, Caroline, Silène, avant de clôturer cet entretien, je suis désolée, ça passe super vite. Ben, j'ai juste un petit truc là. En fait, vous n'avez plus le choix. Ça y est, c'est voté, c'est basta. En fait, vous n'avez plus rien à dire.
En fait, justement, il ne faut pas que ça passe. Et donc, c'est pour ça qu'on invite les gens à venir au vernissage demain soir. On invite aussi les gens, les habitants concernés par ce projet, à écrire au maire. Déjà, le maire a reçu quelques lettres, en fait, de contestation au sujet de cette place. Et on invite aussi les gens à se rendre au prochain conseil municipal, puisque le projet sera soumis au vote lors d'un prochain conseil municipal. Donc il faut qu'on se tienne au courant et qu'on continue en fait à essayer de mettre en place la démocratisation de la vie locale.
Comme c'est bien dit. Et ben Saint-Antonin Nobleval, après la labellisation Grand Site Occitanie, toujours pas contente. Exposition Place des Moines, point d'interrogation, c'est au programme donc de demain, mardi, à 18h30 pour le vernissage et donc la collecte des témoignages, des impressions. Et l'exposition sera visible donc un mois, c'est au café de la Halle de Saint-Antonin-Nobleval. Merci beaucoup Caroline, Silène et à demain.
Mardi. Merci, à demain.
Merci.
Willy Moon, I wanna be your man. Et puis après, ce sera le tour de Rémi Toruella de prendre le micro. Ce sera le feuilleton de la semaine et ce sera à propos du festival Les Lettres d'automne. Baby girl, it's plain to see all of them things that you're doing to me. When I got you oh so near, them things you do to see me there. Put you down, talk that jive all over town. I don't mind what the people say, gonna talk their jives to any old way. I wanna be your man, ha, ha. I wanna be your man. Give me love.
CFM, le mag, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
J-14 avant le festival Lettres d'automne, avant l'inauguration du festival Lettres d'automne, enfin un peu plus même parce que l'inauguration elle-même ce sera le 19 novembre prochain. Le festival va se dérouler sur 15 jours donc à partir du 18 novembre et il y a déjà des petites choses qui se mettent en place par-ci par-là autour de ce festival littéraire piloté par Agnès Gros, directrice de Confluence. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Merci d'être là et d'être venu avec Pierre Ravaille, président de l'association Eidos. Bonjour.
Bonjour également.
Qui s'associe au festival Lettres d'automne pour ses soirées en préambule. Il y a une soirée cinéma, on va y revenir dans quelques instants. Donc, je le rappelle, vous allez, ils vont en avoir soupé nos auditeurs à force de Lettres d'automne. Non, pas du tout. Ils sont ravis qu'on leur répète que cette année, l'invité principal de Lettres d'automne, c'est Anne-Marie Gara, et qu'elle a choisi trois mots pour comme thème à ce festival: histoire, image, nuage. Alors on va avoir le temps d'en parler, mais là si on se voit aujourd'hui, c'est pour parler un petit peu des préambules, des petites choses qui se font avant comme ça. Il y a déjà eu des choses.
Oui, ça a déjà commencé puisque Le premier rendez-vous de Lettres d'automne, en fait, chaque année, c'est quand Henri Méroux, peintre en lettres, ouais, arrive à Montauban et qu'il parcourt le centre-ville, et pas que d'ailleurs, pour orner les vitrines des commerçants et des lieux partenaires avec les mots de nos auteurs invités. Donc ça, c'est vraiment le tout démarrage du festival. Donc on peut déjà lire de ci, de là, des citations d'Anne-Marie Gara et des auteurs qui seront autour d'elle pendant le festival. On a également eu l'occasion de commencer à réfléchir autour de ce thème histoire, image, nuage, avec Robert Dartois et ses cafés philo. Et mercredi 6 novembre, on vous propose une soirée à la Petite Comédie avec nos partenaires que sont les libraires et les bibliothécaires, pour essayer de vous repérer un petit peu dans ce programme qui est foisonnant, pour qu'on puisse partager les lectures coup de cœur des auteurs qu'on a invités, vous présenter un petit peu les grandes lignes du programme et les livres des auteurs qui seront présents.
D'accord, donc les livres à mettre absolument sur sa table de chevet pendant les 15 jours du festival. Enfin,
hein? Oui, ou après, parce qu'en fait, on peut très bien venir à Lettres d'automne sans avoir lu une ligne et se laisser porter par les lectures en scène et par les rencontres. Moi, je dis toujours aux gens, venez même si vous n'avez rien lu, mais quand même là, c'est une soirée en guise de mise en bouche pour donner une idée des sujets qui seront ceux qui rythmeront le festival.
Donc, le mercredi 6 novembre à 19h30, rendez-vous à la Petite Comédie pour d'une lecture à l'autre, les lectures par les bibliothécaires et les libraires, pour présenter donc le festival. Alors, dans le cadre toujours de ces préambules, le 16 novembre à la Muse, donc c'est une soirée cinéma. Vous êtes habitué à faire des soirées cinéma avec la Muse ?
Oui, les soirées préambule cinéma existent. En fait, depuis l'ouverture de la Muse, il y a comme ça un petit choix de films, toujours pour rentrer dans l'univers du festival.
Vous nous les présentez, puis on en parlera plus longuement demain de ces films, M. Ravaille.
Voilà, donc c'est le choix d'Anne-Marie Garade. Elle a choisi d'abord L'homme qui rétrécit de Jacques Arnold, qui est un film classique de 1957, donc sur le thème du voyage, et le titre est assez explicite. C'est en même temps le premier film de patrimoine de cette année, puisque chaque mois à la Muse il y a un film patrimoine dans le genre Saint-Ouen-Illois, où est la maison de mon ami de Kuromaki, Dietmann de Jarmuse, Gosse de Tokyo d'Ozu, vous voyez les grands classiques, avec comme film conducteur Route et déroute. Voilà. Et le deuxième film, c'est La Cordillère des songes de Patricio Guzman, donc un franco-chilien, film.
Que vous nous présenterez demain, si vous le voulez bien.
Voilà. Très
merci
bien.
Merci Pierre Ravaille, président de l'association Eidos. Merci Agnès Gros, à demain.
Merci, à demain.